7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines pour se parler chaque jour, du lundi au vendredi. Et d'ailleurs, le vendredi, nous parlons d'éducation, vous le savez. Et quelques semaines après les débats houleux sur la réforme du collège en France, eh bien nous revenons sur les maux de l'école française. Une école globalement en panne, avec un nombre croissant d'élèves en échec scolaire, ce qui crée autant de frustration, d'exclusion sociale. Pourtant, il existe dans les banlieues, dans les quartiers défavorisés, de nombreux projets qui témoignent d'un désir de changement. Nous allons en parler notamment d'une école pilote à Montfermeil en Seine-Saint-Denis avec une vraie réflexion sur les élèves issus de l'immigration qui d'ailleurs peut prêter à débat. Bonjour Éric Mestrallet.
Bonjour.
Vous dirigez une entreprise de conseil en stratégie, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes aussi président de la fondation Espérance Banlieue qui a créé le cours Alexandre Dumas à Montfermeil, donc cette fameuse école pilote très très différente des écoles et collèges publics. D'autres écoles sont en train de se bâtir sur le même modèle, il y en a une qui a vu le jour à Marseille dans les quartiers nord.
Tout à fait.
C'est une école privée, hors contrat, donc payante pour les parents, assez chère, 700 euros l'année, moins que les écoles sous contrat, mais tout de même, c'est une vraie dépense. Vous trouvez qu'on ne peut pas innover à l'éducation nationale? En gros, on va y revenir, mais pour résumer...
Beaucoup ont essayé, beaucoup continuent d'essayer, c'est pas facile. Donc je pense qu'il est possible, de manière complémentaire, d'essayer d'apporter des solutions, c'est ce qu'on essaye de faire.
Voilà, vous allez nous dire comment vous avez procédé donc, pour contourner l'éducation nationale. Vous racontez cette aventure dans un livre qui s'appelle Espérance banlieue, et vous soulevez de vrais tabous à l'éducation nationale que la réforme du collège a d'ailleurs soigneusement évité, trop sensible politiquement, je pense entre autres au temps de présence des enseignants dans l'établissement scolaire. Carole Diamant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante de métier, professeure de philo, vous avez passé une grosse partie de votre carrière dans des lycées de quartiers défavorisés, zones d'éducation prioritaire. Vous connaissez bien ces sujets-là et vous êtes aujourd'hui déléguée générale de la Fondation Égalité des Chances, une toute jeune fondation qui sert en gros à casser les murs, on pourrait le dire comme ça.
En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite, faire du lien. Travailler le lien plutôt que casser quelque chose, essayer d'ajouter quelque chose et faire du lien avec tout ce qui est possible autour de l'établissement et notamment, et aussi, la vie économique. Pas seulement, mais aussi.
Un gros mot pour certains enseignants, voilà. La vie économique. On en reparlera. L'entreprise liée aux écoles et aux collèges. Après cinq mois après les attentats de Charlie Hebdo, évidemment, on posera aussi la question. Est-ce qu'on peut espérer un autre vivre ensemble dans ces quartiers-là? Notre standard est ouvert si vous souhaitez questionner nos invités ou réagir 33 1 84 22 71 71. Éric Mestrallet, Carole Diamant, vous venez tous les deux d'horizons très différents, le chef d'entreprise, la prof. Quel regard vous portez sur les récents débats autour de la réforme du collège? Carole Diamant, peut-être enseignante.
Alors, en ce qui me concerne, pour être très honnête, je pense que c'est une réforme qui n'est pas très... qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas une réforme très importante, en fait. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que l'éducation nationale, les enfants d'éducation nationale, du moins dans les quartiers qui nous intéressent ici, de l'égalité des chances, va vraiment mal, profondément mal. Je pense que l'éducation, pour des tas de raisons qu'on va développer sans doute un peu plus tard, l'éducation doit être modifiée de l'intérieur très, très, très profondément. Est-ce qu'on doit enseigner les mêmes choses? Est-ce qu'on doit les enseigner de la même manière? Tout ça fait débat. Et du coup, la réforme qui vient d'arriver, je la regarde, je la trouve pas très conséquente.
Ça n'a pas empêché de faire descendre dans la rue sur
Mais je crois pas une seconde que ce soit pour ces raisons-là que les gens soient descendus dans la rue. Le latin, je rappelle les chiffres.
Ça a été instrumentalisé très, très vite politiquement.
Voilà, vous l'avez dit. En tout cas, je le pense un tout petit peu. On a 5% des lycéens, je crois, qui font du latin, même si on en a 17% qui le font au collège. Je crois, si je me trompe pas. Les classes bilingues, ce sont des tout petits chiffres aussi, de l'ordre de 10% si on ajoute bilingue et européenne. Ce sont des petits chiffres. Je ne suis pas sûre que tout ça soit fondamental. Je ne suis pas sûre que cette dernière réforme casse l'école. Je ne suis pas sûre non plus qu'elle lui apporte quelque chose de fondamental, sinon une expérience nouvelle par l'interdisciplinarité.
Éric Mestrallet, comment vous avez vécu ces débats sur la réforme du collège? Ça, c'est vrai que ça chauffe tout de suite, les débats sur l'éducation en France.
J'étais attristé de voir les réactions qu'on a vues, des débats très idéologiques, très éloignés finalement de la réalité du terrain que l'on constate. Donc je partage le fait que il faut trouver des nouvelles solutions pour les banlieues, ceux dont je m'occupe. Hein. Je parlerai pas tellement pour les autres territoires. Il y a d'autres réalités. En tout cas pour les banlieues, c'est compliqué. Mmh. Il faut aller vers les enfants. Moi, je les ai trouvés très absents du débat. Enfin, est-ce que finalement nos hommes politiques s'intéressent au terrain? Je pose la question.
Mais alors vous, qu'est-ce qui fait qu'un chef d'entreprise a eu envie de créer, de contourner l'éducation nationale pour créer une école, collège hors contrat?
Alors d'abord pas qu'une école, hein, parce qu'on crée un modèle d'école qui est amené à être dupliqué. Et c'est là où le chef d'entreprise parle, parce que je travaille sur des modèles d'affaires et j'essaie de les mettre en place dans les entreprises.
Mais vous n'êtes pas spécialiste de pédagogie et d'éducation, on peut vous le reprocher d'ailleurs, je ne sais pas.
Alors heureusement, comme toujours, on n'agit pas seul. Je me suis entouré de plein d'acteurs qui avaient envie d'apporter des solutions dans les banlieues. Donc voilà pourquoi je me suis intéressé. Je reviens quand même à votre question. C'est je suis chef d'entreprise, donc je recrute. J'ai vu en entretien plein de gens issus des banlieues. J'ai vu qu'il y avait un savoir-être qu'ils n'avaient pas, et que même s'ils avaient les compétences techniques, ils n'étaient pas en mesure de pouvoir postuler. Donc j'ai trouvé ça assez injuste. Je sais comment on pourrait inverser la chose. Et puis la deuxième chose, tout chef d'entreprise que je suis aussi citoyen, et voir la désespérance qui croit en banlieue est inadmissible. Enfin, je sais pas, il y a plus de mots assez forts pour dire qu'il faut arrêter de se contenter de cette lente dégringolade, que l'on voit dans les banlieues. On va pas vivre avec des murs, des murailles, c'est pas possible. Donc il faut trouver des solutions, et il faut peut-être bousculer, renverser les codes pour redonner une forme d'espérance dans les banlieues, d'où le nom de la fondation que j'anime.
Vous êtes allé voir le maire de Montfermeil, vous avez dit je veux monter une école et un collège privé hors contrat. C'est pas courant ça dans les banlieues, des établissements scolaires hors contrat, parce que forcément ça veut dire que l'État prend pas en charge les salaires des enseignants, donc forcément le coût de revient est très cher.
Voilà, d'abord toute création est forcément hors contrat, puisque vous le citez, hein. À partir du moment où on crée quelque chose pendant 5 ans, il y a une période probatoire qui fait qu'on est hors contrat. Alors ça peut être accéléré dans certaines conditions très précises, mais donc forcément au début, on a une initiative, on veut démontrer quelque chose, on veut répondre à un besoin, donc on est obligé de procéder de cette manière-là. C'est ce qu'on a voulu faire. Moi, je connaissais bien monsieur le maire et un certain nombre d'autres acteurs de la vie économique et sociale de Montfermeil. Ils m'ont dit il y a une désespérance, il faut absolument trouver des solutions. Donc voilà, donc on a incubé
des parents. Finalement,
des parents aussi, oui. Donc on a incubé un nouveau modèle pour répondre à ce besoin-là. Voilà. Mmh. C'est de l'innovation. On peut faire de la banlieue et de l'innovation. On est en train de le démontrer.
Alors, en tout cas, vous avez mené une vraie réflexion sur les élèves issus de l'immigration. Ça aussi, ça plaît pas trop à l'éducation nationale. C'est-à-dire ces élèves où, précisément, la langue française n'est pas la langue parlée à la maison. Vous dites, c'est un problème pour l'école, donc il faut penser différemment, donc il faut rajouter des choses pour ces élèves-là.
Bah, oui, ils ont une langue maternelle qui est souvent autre, donc c'est une richesse pour eux, mais elle n'est pas suffisante pour faciliter leur intégration dans la communauté dans laquelle ils vivent, communauté éducative à l'école, et puis demain une communauté professionnelle. Donc voilà, donc il faut leur donner les codes. Il faut leur permettre d'apprendre les codes du monde adulte vers lequel ils vont. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on se focalise sur lire, écrire, compter de manière majeure, et puis de leur donner aussi les codes de l'histoire du pays dans lequel ils habitent, pour qu'ils puissent créer une identité dans laquelle ils s'épanouissent.
Alors ça veut dire, question enseignement, du français, des maths, vous mettez vraiment le paquet là-dessus. Ça va pas du tout dans le sens de la réforme du collège. Moins de sciences physiques, moins d'heures de langue.
Oui.
C'est assez gonflé comme choix.
Ils ont généralement une autre langue étrangère, enfin qui est pas pour eux, qui est pas étrangère, mais enfin une autre langue que le français à la maison. Donc ils ont déjà un avantage. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent connaître au moins la langue du pays, la langue française, bien, et la maîtriser pour pouvoir s'épanouir. Ce qui n'est pas le cas quand ils arrivent. Moi, je me souviens d'un enfant qui est arrivé en cinquième. Hein, il n'avait pas fait son cursus avant à l'école. Le professeur le fait lire. Il prend le livre, il le jette violemment à la tête du professeur. J'aurais pas forcément bien réagi, je l'avoue. Le professeur le prend le soir, et en fait, il savait pas lire. Donc, forcément, il peut être que violent. Et ils connaissent pas le code du monde adulte. Ils sont violents. Il faut pas leur en vouloir. C'est normal. Il faut tendre la main à ces jeunes, sinon ils nous emmèneront à des endroits où on veut pas aller. Et voilà, c'est ce qu'a su faire ce professeur que je salue ici.
Beaucoup de sport et puis surtout un travail très particulier sur le rôle et sur la place des enseignants. Évidemment, ils sont tous volontaires, hein, pour venir dans une école comme celle-ci, un collège comme celui-ci.
Tout à fait, oui.
Ils ont pas franchement les mêmes CV, les mêmes diplômes que ceux de l'éducation nationale. Ils ont une bonne connaissance de la matière qu'ils enseignent, bien évidemment, mais dans des parcours assez particuliers.
Ils sont éducateurs, oui, c'est des grands éducateurs. scolaire, ils ont pu faire des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, et voilà, et, mais avoir envie de trouver du sens à leur travail. Et c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent au sein de cette école, de ces écoles, parce que maintenant il y en a plusieurs.
Le rôle et la place des enseignants, c'est la différence la plus marquante par rapport aux établissements publics. C'est la façon que vous avez de démarquer.
Je pense que c'est important, et on touche un point d'angle, et je vous remercie de le poser. C'est que nous on dit c'est des enfants qui sont du CP à la troisième, mais c'est des enfants, des grands et des petits, ça
oui,
reste des enfants.
Les enfants d'ailleurs,
oui,
dans
des enfants, oui, tout à fait, et qu'il faut aider à apprendre. Voilà. Et donc c'est pas eux qui sont les maîtres de l'apprentissage de leur savoir, ils ont besoin d'être guidés. Alors c'est pas forcément une idée ou voire une idéologie
c'est pas du tout l'idéologie de l'éducation nationale.
Tout à fait. Voilà. Donc nous on a inversé les choses pour aller pour recréer de la confiance pour les enfants, et on va les guider. Donc cet adulte qui a cette responsabilité, cette charge, ben c'est bien de pour pas qu'on soit dans une image d'Épinal de la Troisième République, qui soit accessible, qu'on puisse le découvrir, l'aimer, partager avec lui des passions. Et c'est la raison pour laquelle les profs
ils sont présents
toute la journée.
C'est ça. Voilà. Donc même s'ils ont pas cours, ils viennent. Toute la journée.
On peut déjeuner avec eux, on peut jouer au foot avec eux, on peut faire de la musique avec eux, on peut faire du théâtre avec eux. Voilà. Donc l'adulte, eh ben, certes, il apprend, mais il est aussi aimable, et on peut avoir envie de se projeter avec lui, d'avoir envie de le ressembler.
C'est ça. C'est ce aimable, sous-entendu, voilà. Digne d'être aimé par par les élèves. Carole Diamant, les enseignants, pour vous, c'est à la fois la solution et le blocage à toute évolution du système à l'heure actuelle,
J'ai du mal à ajouter quelque chose. C'est la solution et le blocage. C'est-à-dire que ce que dit monsieur, il a tout à fait raison, la place de l'enseignant est capitale. Heureusement, nous avons dans l'éducation nationale un nombre important de professeurs qui ont toutes ces qualités. Tout ce que vous avez cité, ce sont aussi des choses, et on n'est évidemment pas en concurrence, hein, mais on travaille dans le même sens. On a du théâtre fait par les professeurs dans les écoles, on a du sport et des jeux de foot faits dans les écoles par les professeurs. Tout ce que vous avez proposé sont des choses qui existent, effectivement. On a plein de gens formidables à l'éducation nationale, il faut pas oublier ça, parce que sinon, ça tiendrait pas debout. C'est l'élément qui permet que ça tienne encore. Et puis, il y a
Qu'est-ce qui marche pas alors? Qu'est-ce qui fonctionne pas?
Alors, j'allais le dire. Il y a aussi, d'une part, un système qui, on a 12 millions d'enfants, je dis pas de bêtises.
Alors,
je parle sous votre contrôle,
tête, là,
mais je crois que c'est ça. C'est 12 millions de gosses à enseigner. Grosso modo, ils vont à l'école et ils en ressortent, ils y vont le matin, ils en ressortent le soir, c'est déjà ça. On a un système énorme. Pour moi, il y a une hétérogénéité dont vous savez bien, d'ailleurs, on est tous d'accord là-dessus. Vous savez bien qu'elle existe, puisque justement, vous, monsieur, c'est de cette hétérogénéité dont vous...
Mais il y a un déni politique sur l'hétérogénéité, c'est un débat qui est difficile. Il y a un déni politique là-dessus, sur les différences.
Je n'en suis pas certaine, je vous entendais tout à l'heure utiliser l'expression « l'idéologie de l'éducation nationale ». Qu'est-ce que c'est et qui est capable de dire aujourd'hui ce que c'est que l'idéologie de l'éducation nationale?
Les syndicats.
Ils sont minoritaires.
Qu'est-ce qui représente les syndicats en quantité? Donc, effectivement, c'est une parole entendue, c'est une parole ancienne, c'est, je dirais, une parole historique. Donc, en effet, on entend cette parole. Mais moi, quand j'entends idéologie de l'éducation nationale, je voudrais bien savoir ce que c'est. J'appartiens à l'éducation nationale, je suis professeur dans l'éducation nationale, et je travaille avec les entreprises, et je permets des projets qui ne sont pas tout à fait banals, et je tricote des liens entre les entreprises et les enfants des établissements sur la France entière, y compris la Guyane. Donc, tout est possible, et je crois que c'est l'hétérogénéité qui est le grand mot.
On y revient dans quelques instants. Carole Diamant, vous êtes déléguée générale de la Fondation Égalité des Chances.
Qu'on se perd, vivre dans le passé, à regarder la vie nous dépasser. Pour peu de choses, on se sent dépossédé, entre guillemets.
Entre les lignes.
Ceux qui m'appellent frère sont des étrangers, portent le même nom mais pas le même trait. Vu de près, si le portrait est gâché, entre parenthèses, entre les lignes. Arrivé avec les giboulées, juste un pied foulé, et mes repères sont chamboulés. Regard embué, derrière ces vitres, je ne suis pas chez moi mais juste en transit. Ils m'ont accepté, sans trop de grogne, comme si j'avais été amené par les cigognes. Mais de but en blanc, j'ai fait semblant, pour éviter ces regards accablants. Donc
bomba, tout s'étranger quelque part, chez nous. Bien que je passe ma route, passe entre les gouttes, entre les gouttes.
J'ai du mal à me familiariser avec ma famille d'enfants. J'ai du mal avec les familiarités de leurs nouveaux conjoints. Vu qu'ils m'aiment sans phare, leur affection me désempare, me laisse à part.
On s'est quitté sans se dire adieu et embrassé juste avec les yeux, sans se promettre, sans faire de vœux, à demi-mot
entre les lignes.
Mais sans repère, ici on devient rugueux. Mais sans modèle, les liens sont défectueux. Et la mémoire est mon bien le plus précieux jusqu'à ce point.
Entre les lignes.
Ils m'ont dit, laisse ses soucis dans le KGB. On rêve tous d'un père à la Bill Cosby. Tu sais aussi qu'on choisit pas sa famille. Qu'on soit d'ici ou de Kigali, chez nous on s'appelle frère.
Balogi, entre les lignes, chez 7 milliards de voisins, sur RFI. Nous parlons de cette éducation nationale en panne. La preuve, c'est que des projets se mobilisent, mais avec beaucoup de difficultés en France. Carole Diamant, vous êtes déléguée générale de la Fondation Égalité des Chances. Tout le monde est d'accord sur le fait que l'ascenseur social est en panne, mais le vrai débat, il est sur les solutions. En gros, personne n'est d'accord, sinon ça bougerait.
Moi, je crois qu'il y a deux sujets qui sont complètement différents l'un de l'autre. Il y a un sujet isolement, dont monsieur, vous avez d'ailleurs parlé tout à l'heure, il y a un sujet isolement des banlieues, par exemple, ou d'ailleurs de certaines zones rurales dont on ne parle pas suffisamment. Il y a un sujet isolement qui génère la violence dont vous parliez aussi. Vous en parliez à propos de la lecture, on peut en parler à propos de l'isolement et de la solitude et de l'impossibilité de voir un espoir s'ouvrir. Ça, c'est un sujet presque d'ordre psychologique et comment l'école traite ce sujet. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on transmet ? Qu'est-ce que l'éducation est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut transmettre à des enfants dans un monde qui, pardon de ce poncif, mais dans un monde qui va à une telle vitesse que le rapport au savoir n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que les enfants, ils peuvent pas regarder les professeurs comme avant. Avant, nous étions les seuls détenteurs du savoir. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai et ça n'est pas du tout difficile à un enfant de nous arrêter dans notre cours et de dire, attendez, il n'y a pas une erreur là parce qu'il a un Wikipédia sur les genoux. Et ça, nous devons en tenir compte. Ce sont deux sujets complètement distinctes.
Alors, vous voyez, c'est déjà là où vous n'avez pas la même approche, parce qu'Éric Mestrallet, vous êtes dans une approche où, oui, c'est l'enseignant qui délivre le savoir, oui, ça continue d'être dans ce sens-là vertical, ça descend vers l'élève, et non, l'élève n'a pas à contester l'enseignant.
J'ai pas dit ça, j'ai dit que...
C'est ce qui ressort de
oui,
ce
mais on adresse une population d'enfants plus jeunes que celle que traite...
Bah, c'est donc, collège en troisième, les enfants qui sont très débrouillards quand même.
C'est la fin du parcours, en troisième, j'ai quand même des enfants qui ont encore... qui ont plein de lacunes en français, c'est compliqué.
Oui, mais dans la vraie vie, ils sont très débrouillards, c'est ce que je voulais dire.
Ils peuvent être très débrouillards, mais
ils ont une capacité de contestation importante.
Oui, mais il faut qu'ils connaissent l'ordre, qu'ils respectent l'ordre, et c'est par rapport à cet ordre qu'ils peuvent se construire. Donc, bien évidemment,
Vous êtes contre l'approche, l'enfant va chercher son savoir tout seul, et ensuite il discute avec l'enseignant, etc.
Je pense que c'est pas un service qu'on rend à l'enfant qui a pas la possibilité de se construire. Je parle à cet âge-là, et dans les circonstances que l'on a dans les banlieues. Ils sont en situation de fébrilité, de ils ont peur, ils ont besoin de repères. Enfin, c'est peut-être bête à dire, mais ils ont besoin de ces repères vers lesquels ils peuvent se confronter après et les dépasser. Mais il faut qu'ils puissent les appréhender.
Carole Diamant, la Fondation Égalité des Chances que vous dirigez est une fondation qui délibérément veut se rapprocher du monde des entreprises. Tous les enseignants sont pas d'accord avec ça.
Alors c'est plus que vouloir, puisque cette fondation elle existe et elle finance des projets pédagogique pluridisciplinaire grâce aux entreprises. Donc non seulement
au financement des entreprises.
Oui, au financement des entreprises, c'est de l'argent privé qui permet de financer des projets qui sont différents des projets habituels où les professeurs travaillent ensemble, où 9 fois sur 10 les enfants sortent de l'école. Donc il y a des coûts de transport, des coûts de fabrication s'ils veulent faire un petit robot, des coûts de toutes sortes de choses. Je pourrais vous donner des exemples si vous voulez. Je vous en donne un tout de suite comme ça parle qui me vient là dans un établissement de Douai dans l'académie de Lille. Des professeurs ont eu l'idée de faire travailler les élèves de seconde autour des pigeons voyageurs. Bon, alors ils ont acheté des pigeons voyageurs. On n'a pas de budget à l'éducation nationale pour acheter des pigeons voyageurs et les mettre dans l'école. Nous avons financé les pigeons voyageurs. Après ça, on a un professeur d'histoire qui travaille sur les pigeons voyageurs et qui, sur la Deuxième Guerre mondiale et leur capacité à transmettre des messages. On a un professeur de lettres qui va travailler sur, l'albatros, des poèmes autour des oiseaux. On a le professeur de biologie, évidemment, en sciences et vie de la terre, comme nous disons, qui va travailler sur le squelette des oiseaux, la manière de voler, etc. On peut même en ajouter, ce qui n'a pas été le cas, on peut parler du professeur de physique qui va travailler autour d'un pigeon. L'éducation nationale ne paye pas le pigeon. Nous pouvons financer les pigeons et ça change absolument tout.
Mais derrière, il n'y a pas seulement l'argent que les entreprises peuvent apporter, il y a aussi les ponts jetés entre ces jeunes, cette nouvelle génération et les entreprises, on va en parler. Vous restez avec nous, 7 milliards de voisins, on se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes juste après le flash. Et nous essayons de voir quels sont les espoirs dans les quartiers défavorisés en France.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Changer l'école, inventer un autre vivre ensemble. Quelle raison d'y croire, 5 mois après les attentats de Charlie Hebdo. Nous en parlons à la lumière de deux fondations qui partagent en tout cas une envie d'agir pour les jeunes des quartiers défavorisés et surtout peut-être de réparer un ascenseur social en panne. Carole Diamant, vous êtes enseignante et déléguée générale de la Fondation Égalité des Chances. Éric Mestral est chef d'entreprise, président de la Fondation Espérance Banlieue. Vous avez fondé, avec d'autres bien sûr, le cours Alexandre Dumas, cette école pilote à Montfermeil, donc école primaire et collège. Et puis vous avez donc une autre école qui a ouvert dans les quartiers nord à Marseille et une troisième en préparation.
Une troisième et quatrième, une à Asnières dans les quartiers nord et une à Roubaix. Sachant que les gens de Roubaix qui sont venus nous voir pour réaliser ce projet-là nous ont dit, ben, puisque vos écoles, du fait des petits effectifs, ne peuvent pas dépasser 150, il en faudra 3, 4 ou 5 sur la zone parce qu'il y a d'énormes besoins. Ils sont tétanisés par le communautarisme qui est en train de se créer dans les banlieues et le fait que ces jeunes qui sont géniaux ne puissent pas sortir de ces prismes de repli sur
eux. Justement, vous en parlez de vous-même, la peur du communautarisme et le repli dans les banlieues. Carole Diamant, Éric Mestral, et tous les deux, comment vous avez vécu les attentats de Charlie Hebdo et l'attentat contre l'hypercacher? D'abord, peut-être pour votre fondation, Carole Diamant, quelles conséquences ça a eu sur votre travail à la Fondation Égalité des Chances? Ça a bousculé des lignes?
Alors, vous me mettez dans une situation inconfortable parce que, en fait, ça a beaucoup plus joué sur mon travail comme professeur dans le lycée parisien dans lequel je travaille, où les enfants étaient tétanisés et nous aussi les professeurs. On est resté tétanisés un long moment, c'est-à-dire pendant 24 heures, 48 heures, on n'a pas pu faire nos cours normalement. Je le sens en fin d'année.
Alors que là, vous n'enseignez plus en zone d'éducation prioritaire
Non, mais ça a été un choc absolument partout. J'enseigne même en centre-ville parisien, vraiment maintenant, depuis peu de temps, mais voilà. Ça a été un grand choc, ça a été un choc pour tout le monde et ça me rappelle, pardon d'en parler, mais j'ai écrit il y a quelque temps un livre qui s'appelait École terrain miné et je me suis dit, c'est plus seulement miné, ça commence à exploser. Et c'est pour moi, c'est une motivation supplémentaire.
Une urgence supplémentaire aussi.
Par rapport au sujet dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'isolement. Si on laisse ces banlieues, ces établissements, ces enfants isolés, on ne sait pas ce qu'on génère. On génère de la violence.
Comment ça a été vécu dans votre école et collège, surtout de Montfermeil?
Alors, bien évidemment, c'est un choc. Alors,
collège privé hors contrat, avec l'État, je le rappelle.
Indépendant, autonome, la possibilité de recruter son équipe professorale et de choisir ses méthodes, ce qui n'est pas forcément le cas dans les écoles privées ou publiques. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les attentats ont lieu mercredi. Celui de Charlie a eu lieu mercredi. Donc, mercredi après-midi, les enfants n'étaient pas à l'école. Le jeudi matin, le directeur a réuni les professeurs, leur a transmis un petit texte, de telle manière à ce qu'ils puissent passer la première heure de cours pour verbaliser, partager ce qui s'était passé, prendre conscience du fait qu'il y avait eu un drame, un acte difficile à qualifier, enfin atroce, et que même si on peut dire et les rumeurs avaient circulé, plein de choses, il y a eu le mort d'homme.
Est-ce qu'il y a eu des propos, agressifs, que les enseignants ont vécu comme des propos agressifs de la part des élèves, beaucoup rapporté dans des établissements?
Nous on n'a eu aucun, il n'y a pas eu de difficulté. Il fallait laisser les gens s'exprimer, il fallait pouvoir rappeler qu'il y avait eu mort d'homme de manière atroce. Donc ça a bien pu être verbalisé et on a pu organiser la minute de silence à midi et il n'y a eu aucun problème sur cette minute de silence qui a permis d'avoir une pensée pour ceux qui étaient décédés.
Et les enseignants n'ont pas vécu ce qu'ils ont beaucoup raconté, cette situation de désarroi profond, de ne pas avoir les clés pour savoir comment se comporter et parler avec les élèves.
Non, pas du tout, parce qu'en fait ils discutent très souvent avec les gens, ils sont très présents, ils ont les enfants pas seulement qu'en cours, donc c'est très souvent qu'ils ont d'autres sujets de conversation avec eux, qu'ils essayent de faire agir leur raison dans les discussions qu'ils ont avec eux, et de fait les choses ont été très pacifiées et ont pu s'exprimer. Les parents étaient aussi présents le soir, il y a pu y avoir des discussions parce que cette école-là est aussi l'occasion.
Avec les familles,
c'est important de rappeler que pour nous les parents sont partie prenante de l'école, alors pas au sens intervenant, il faut pas, ça reste reste une école, mais l'éducation auquel l'école contribue, est partagée avec les parents. Et donc très souvent, on discute avec les parents pour essayer de comprendre pourquoi tel enfant a telle difficulté et que ça le gêne dans l'apprentissage. Et de ce fait, les parents profitent aussi d'un certain nombre de codes qui sont enseignés aux enfants et voir son demandeur, parce que eux aussi, ça les permet d'approfondir une identité qui souvent n'est pas totalement finie par rapport à une présence dans un pays dans lequel ils n'ont pas fait leur jeunesse.
Oui, mais je vous entends avec plaisir et en même temps, ce qu'on ne sait pas de l'éducation nationale, c'est que c'est de plus en plus comme ça. Je pense à la mallette des parents qui introduit au maximum les familles dans dans les établissements. C'est pas si simple à obtenir.
Qu'il y ait des choses très bien qui se fassent, c'est évident.
C'est formidable. C'est évident. Il y a beaucoup d'énergie.
Si ça marchait si bien que ça, malgré tout, je suis désolé.
Ça ne marche pas bien.
Oui.
Je ne dis pas que ça marche bien. Je dis que finalement, les axes de travail sont les mêmes.
Donnons plus d'autonomie. D'ailleurs, Madame le ministre,
c'est ce que dit la ministre actuellement.
Donnons plus d'autonomie. Il y a les profs, et d'ailleurs tous les profs qui viennent à Alexandre Dumas ou à Marseille, public, privé, enfin ou extérieur, disent ici on peut réaliser notre vocation. Donc c'est pas une question d'opposition entre un système ou l'autre. L'idée c'est donner cette autonomie.
Moi, je me considère comme quelqu'un qui a pu réaliser sa vocation et à l'âge que j'ai, je peux parler.
Quand même, vous nous avez décrit le fonctionnement de cette école pilote à Montfermeil, Éric Mestrallet, où on revient beaucoup aux fondamentaux. Maths français, on met le paquet là-dessus pour que les élèves maîtrisent les bases. On n'est pas dans un enseignement pluridisciplinaire avec des matières développement durable, etc. Il y a un uniforme pour les élèves comme pour les enseignants.
Tout à fait.
Et un lever des couleurs le matin, drapeau français, drapeau européen et drapeau de l'école. Pourquoi donc ?
C'est pour créer ce sentiment d'appartenance et pour remercier la communauté dans laquelle ils ont la possibilité d'apprendre.
Mais il n'y aurait pas ça fonctionnerait quand même.
Ça a été presque collectivement réclamé par les enfants.
C'est assez récent, oui. Non ? Parce que il me semble que je suis allée à Montfermeil effectivement, oui. Et je n'avais pas vu les uniformes.
Oui, tout à fait.
C'est assez récent.
Non, les uniformes c'est dès la première année.
Donc
et
il y a
Et le lever des couleurs, c'est naturellement mis en place. En fait, dès le début, on a dit.
On a rajouté une couche alors, sous-entendu ?
Oui, parce qu'on aura dit venez avec votre drapeau aux enfants au début de l'année. Qui est français en classe ? Un tiers des enfants lève la main. Ils sont tous français, la compréhension et la verbalisation du sujet est pas simple. Donc ils disent, venez avec votre drapeau. Alors le directeur qui est d'origine bretonne était venu avec son drapeau et chacun était venu avec son drapeau. Alors les Turcs, les Marocains, etc. Ça a créé des problèmes et donc finalement il a fallu recréer un sentiment de commun et ça ne pouvait se faire qu'au niveau qu'avec le drapeau français et le drapeau européen et le fanion de l'école qui voilà. On est dans une communauté, on a envie d'apprendre, on a envie de construire son savoir. Voilà et c'est comme ça que c'est organisé.
Vous défendez bien vous l'argumentez bien, mais vous admettez que c'est quand même un choix très clivant, très marqué politiquement. Cette idée du lever des drapeaux.
Pourquoi le drapeau français est pas partagé par tout le monde ?
Non, mais vous savez très bien que dès qu'on parle drapeau uniforme, il y a débat.
Vous n'êtes pas encore sur la référence à l'idéologie théorique, une idéologie qui n'est pas dans le réel.
Non,
tout
mais
à
je,
fait.
Je sais pas, je vous pose la question.
L'uniforme, c'est un sweat à capuche. On n'est pas des petits collégiens anglais. C'est adapté.
Et
pour eux, ça leur coûte moins cher. Ça coûte moins cher aux familles. Et ils respectent cet uniforme. Ils ne l'ont pas automatiquement en arrivant à l'école. C'est 3 semaines, voire 1 mois après l'entrée à l'école, qu'ils ont droit d'avoir cet uniforme. Et on leur quelquefois, lorsqu'ils violent la règle de bien vivre ensemble, on leur retire leur uniforme. Et ils en sont désespérés. Et donc, il faut qu'ils regagnent le droit de pouvoir porter l'uniforme. Donc, c'est des rites
qui
permettent à l'enfant...
C'est assez stigmatisant. Si vous êtes le seul à ne pas porter l'uniforme dans une classe,
si vous êtes comporté de manière inadmissible, si vous avez été violent avec un petit camarade, c'est normal que la communauté le signale.
Alors, vous parliez d'argent, justement. 700 euros par an, le coût de la scolarité. C'est moins cher, bien sûr, qu'une école privée sous contrat d'association avec l'école.
Qui n'existe pas à Montfermeil, donc l'offre scolaire n'était pas
néanmoins,
parfaite.
Néanmoins, qui vous avez comme famille ? Certainement pas des parents au chômage.
On a vraiment
pour payer
de tout,
700 euros, d'autant plus s'ils ont 2 ou 3 enfants.
On a vraiment de tout. Alors, il se trouve qu'il peut y avoir des bourses qui sont octroyées, qu'on se débrouille pour octroyer, mais... Je pense que ce qui a pas de prix, il n'y a pas de valeur. Le directeur de l'établissement, au tout début, il a offert l'uniforme. C'était une erreur et il est revenu sur cette erreur puisque l'uniforme n'était pas respecté. Au bout de 15 jours, il était jeté partout, etc. Et donc ils y prenaient pas soin. Donc je pense qu'ils sont capables de dépenser de l'argent, d'acheter des produits informatiques, numériques. Pourquoi ils sont pas capables d'investir pour ce qui est le plus important pour eux, c'est le devenir de leurs enfants. toute mère de famille, tout père de famille, alors c'est plus vrai pour les mères de famille que pour les familles, mais tout parent veut que son enfant réussisse. Et nous, on le constate tous les jours. C'est pour ça que les parents sont associés. C'est pour ça que les parents et les enfants signent cette charte éducative qui est proposée qui est proposée par l'école. On ne refuse personne à partir du moment où les gens acceptent cette charte.
Mais de mémoire, tout de même, la force de peut-être la force et la faiblesse du travail que vous faites, c'est le nombre d'élèves dans les classes. C'était toute petite classe.
18 élèves par classe.
Hein, maximum, ouais. Oui.
C'était toute petite classe. Force et faiblesse, c'est-à-dire force bien entendu, mais faiblesse au regard de l'éducation nationale.
Pourquoi?
Vous voyez? Mais parce que
on a
12 millions là, il faut bien qu'on les mette dans des salles de classe. Il faut bien qu'on mette des professeurs devant. Il faut bien qu'il y ait un coût à tout ça. Vous le savez.
Mais notre coût de fonctionnement, il est 50% du coût de l'école publique. Donc,
faut dire que vos locaux, c'est des préfabriqués aussi.
Oui,
fait des préfabriqués dans toute la France, ça va être la révolution.
On n'est pas obligé. D'abord, on n'est pas que dans du préfabriqué. À Asnières, on est dans du dur. Donc, école d'ailleurs mise à disposition par l'école publique. Enfin, locaux mis à disposition par l'école publique.
Vos enseignants sont moins bien payés que
dans
l'enseignement
public.
Non,
ils sont mieux payés. Donc, en revanche, on n'a pas toute la technostructure de l'éducation nationale. C'est une réalité. Donc, je cherche pas à opposer. Je dis, on peut trouver des solutions, on peut innover. Et c'est ce à quoi j'appelle tout le monde. C'est venez voir et venez discuter avec nous. Et peut-on contribuer à trouver une solution qui permette aux enfants de s'épanouir?
J'ai peur que votre jolie solution, et vraiment qui ne manque pas d'attrait, elle ne puisse marcher. Mais d'ailleurs, j'en ai pas peur. Je pense que c'est ça la réalité. Elle marche, cette solution, parce que elle est très 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 local, du fait que ce sont de tout petits volumes, c'est très local. Et en fait, c'est pas vraiment que j'en ai peur, c'est que ma conviction profonde, à tort ou à raison, c'est que c'est le seul moyen aujourd'hui de penser l'éducation nationale. Mais je ne suis pas ministre, et donc je n'ai pas cette responsabilité.
C'est pour ça que la fondation est là pour aider ces différentes initiatives. Là, je peux vous assurer que, mis à part le problématique de financement, qui est une vraie réalité, puisque c'est à nous de combler les 80% restants, qui ne sont pas apportés par les familles. Mais si on va vers le financement public, ce qui est l'objet des discussions qu'on commence à avoir, dans 10 ans, on aura 200 écoles Espérance banlieue.
Oui, mais 200 écoles Espérance banlieue, ça fait pas la France.
Mais je peux vous assurer que sur les communes sur lesquelles ça s'implante, la vie en est changée, l'ambiance en est changée.
C'est sûr, mais moi j'ai aucun doute là-dessus.
Et comme on est complémentaires,
comment on passe à l'échelle?
On est complémentaires. Je vais pas remplacer l'éducation nationale.
Est-ce que ça signifie alors qu'il faudrait se mettre à penser l'éducation nationale à partir, et pourquoi pas? Je j'ai pas de religion en matière
d'expérimentation, c'est ça?
À partir de multiplicité d'expérimentation, de travail de terrain.
L'éducation nationale regarde peu, s'intéresse peu à l'expérimentation et laisse peu de place à l'expérimentation, moins que par le passé. Non,
c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que on peut expérimenter, on expérimente, et il y a des tas de gens qu'on appelle notamment les cardis qui sont faits pour regarder l'innovation et l'expérimentation.
Quand vous voulez expérimenter dans vos établissements, là, comment c'est très lourd, je veux dire, administrativement parlant.
Mais administrativement, ça peut très bien ne pas passer jusqu'à l'administration. L'éducation nationale s'intéresse à l'expérimentation, mais qu'est-ce qu'elle en fait? C'est ça la question, c'est l'hétérogénéité du terrain.
Je voudrais qu'on parle quand même de votre fondation, Carole Diamant. Merci. La fondation Égalité des Chances qui figure parmi les 30 finalistes de l'appel à projet La France s'engage. On aura les résultats le 22 juin, je crois que c'est le président de la République qui va annoncer les 15 lauréats du concours. L'enjeu pour une fondation comme la vôtre, il est financier.
Alors c'est un enjeu, pas seulement, c'est un enjeu financier, mais c'est aussi un enjeu de reconnaissance publique. Parce que cette fondation a des fonds privés et que, au fond, on se rend bien compte que les entreprises privées sont plutôt favorables à travailler en collaboration avec le public. C'est terminé que chacun travaille tout seul dans son coin. C'est ça la source de tant de difficultés pour nous tous, et notamment de cet isolement.
Que vous disent les entreprises de leurs attentes par rapport aux jeunes générations là qui sortent de ces établissements en difficulté?
Monsieur le disait tout à l'heure, il y a un premier sujet qui est principal et qui a pour les entreprises maintenant 5 ans, on va dire entre 5 et 10 ans, c'est que elles voient arriver, quand elles arrivent à recruter les élèves, on va dire de l'éducation prioritaire pour rester large, quand ça marche, quand elles y arrivent, quand elles les touchent, ce qui n'est déjà pas facile, elles les voient arriver et là, elles ne les comprennent pas. Donc il y a un premier enjeu qui est l'enjeu recrutement.
Elles ne les comprennent pas.
Elles ne les comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le même langage, et surtout, quand je dis langage, c'est au sens large, ils n'ont pas les mêmes
codes.
Alors ces codes, si vous voulez des précisions, les codes, c'est qu'une entreprise, quand elle recrute des jeunes gens, elle s'attend à les voir arriver à l'heure, par exemple. Eh bien, ce n'est pas absolument nécessaire de l'autre côté. Donc, on a Les entreprises sont très surprises de voir les élèves arriver des banlieues. Et les élèves des banlieues...
Alors on dit banlieue au sens très large.
Et du rural également.
Quartiers, etc.
Mais oui, ce qu'on appelle maintenant les quartiers, de toute façon, personne ne cerne précisément ce que c'est qu'une banlieue ou un quartier. De toute façon, ce sont des termes à la mode qui changent de trimestre en trimestre. Mais quand ces élèves entrent dans des entreprises, ils ne comprennent pas forcément pourquoi c'est tellement important d'arriver exactement à l'heure, de ne pas porter une casquette, de ne pas avoir un casque sur les oreilles, de s'adresser de telle ou telle manière aux autres individus. Et c'est pas du tout de l'agressivité de leur part, c'est juste des
codes. C'est pas un peu schématique, là, quand même. On n'est pas un peu dans l'exagération.
Alors,
les jeunes, ils sont briefés par leurs enseignants.
Ils sont briefés, mais briefés pour dire quoi?
Vous venez dans les écoles,
Mais bien sûr, briefés pour dire quoi?
Que je pose.
Ils ont surtout vécu 10 ans ou 15 ans avec certains codes, et ils arrivent dans un monde qu'ils n'ont jamais vu, raison de l'existence de la Fondation Égalité des Chances. Ils arrivent dans un monde qu'ils n'ont jamais vu.
Donc, ils ont peur, quelquefois?
Ils ont souvent peur, ils sont inquiets. Mais sauf que, même en voulant bien faire, ils ne savent pas forcément ce qui est considéré comme bien. Il suffit de... on est toujours très étranger à ses propres codes. Ça a pénétré en nous, c'est ce qu'Aristote appelait une seconde nature, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, on n'a pas de distance par rapport à ça. Ni eux, ni ceux qui sont dans les entreprises. Donc les entreprises, leur premier enjeu, c'est le recrutement. Leur deuxième enjeu, c'est que dans une société déséquilibrée, disharmonieuse, violente, agressive, les entreprises et la vie économique ne se développent pas. Ils le savent très bien. Il n'y a pas, on ne peut pas considérer que c'est de la philanthropie au sens absolu, grand cœur et charité. On n'est pas du tout là. On est dans une responsabilité
sociétale. Vous partagez ce point de vue, Eric Mestrali, vous qui êtes chef d'entreprise, justement?
Complètement, et je le vois d'ailleurs sur le regard que portent les entreprises locales autour de Montfermeil ou autour de Marseille. C'est que
qui sont partie prenante des projets d'école pilote, là.
Et tout à fait. Et hier, on était justement avec Xavier Huillard, le PDG de Vinci, qui est aussi président de l'Institut de l'entreprise, qui a été bousculé par Alexandre Jardin, qui soutient nos initiatives. Donc les zèbres, en disant ben il faudrait peut-être aider à faire incuber des nouveaux projets, et c'est à ce titre-là qu'on avait une soirée hier soir, et donc Xavier Huard dit ben on va vous aider. On va mobiliser les entreprises pour financer la préparation du déploiement. Donc l'incubation du déploiement. On a incubé un modèle, maintenant on incube le déploiement. Et donc en 2017, au moment où les choses seront... il y aura des changements politiques, peu importe d'ailleurs lesquels ils sont, mais parce que on travaille avec les deux bords, on va pouvoir arriver vers ce financement public qui va permettre... donc d'avoir 150 écoles Espérance banlieue dans 10 ans.
C'est nouveau, cette impulsion de la part des entreprises qui reconnaissent qu'il faut que les choses bougent. Ça pourrait faire bouger les lignes et devancer un certain immobilisme.
Les entreprises
de l'État, d'ailleurs, gauche-droite confondues.
Tout à fait. Les entreprises ont besoin de faire bouger l'État, la technostructure, sur plein de sujets. Je dis pas qu'elles ont raison ou tort, mais on voit qu'il y a une vitalité. Le contexte, la vie économique telle qu'on l'a évoqué, bouge énormément, et l'État a du mal à bouger. Et donc on sent qu'il y a des besoins pas d'émancipation, mais d'envisager les choses différemment. Et ces petits sujets, qui sont des sujets importants mais petits par rapport à tous ceux qu'ils adressent, peuvent contribuer justement à changer les modes de fonctionnement, d'interaction.
Et de mon point de vue, il y a un historique de cet intérêt des entreprises pour l'éducation nationale. Je crois l'avoir vu naître il y a 15 ans, c'est-à-dire en 2000, quand Richard Descoings a décidé...
Patron de Sciences Po,
l'ex-patron de Sciences Po, a décidé de créer une nouvelle voie d'entrée à Sciences Po. Il l'a pas fait comme ça à sec. Il a mis en présence... tranquillement, lentement, il a mis en présence les entreprises et les enseignants. Et ça fait donc maintenant 15 ans, l'Institut de l'entreprise avait essayé de travailler, ça n'était pas si simple avant lui, mais je crois que là, il s'est vraiment passé quelque chose.
Oui, tout le monde a dit, les verrous vont sauter derrière les autres grandes écoles, vont déréguler leurs concours, vont faire des concours plus ouverts, avec d'autres types d'épreuves pour les élèves de banlieue, ça n'a jamais été le cas, il n'y a que Sciences Po.
Non, il y a eu la prépa.
Oui. On n'a pas changé la nature des épreuves. Il n'y a que Sciences Po qui a décidé faire des épreuves différentes pour des publics différents.
À ma connaissance,
c'était le plus scandaleux, et ça reste la preuve scandaleuse puisque les autres ne l'ont pas fait.
Mais
les
tout de même, vous donne un exemple que soutient la Fondation Égalité des Chances, justement. C'est un établissement à Dijon, Henri Paria notamment, qui a décidé de faire une prépa pour des élèves de bac pro. Une prépa ingénieur. Il intègre pratiquement 100%, la plupart du temps 100%, ça fait 3 ans je crois qu'elle existe, et l'année dernière, il a intégré un élève de bac pro à l'IX, à Polytechnique. Ça, à mon avis, ça n'était jamais arrivé. Donc, voilà. Il y a un mouvement.
En tout cas, Sciences Po n'a jamais été aussi attractif du point de vue des élèves. Donc, ce qui prouve bien que la réforme avait quelque chose de bon, en tout cas l'ouverture sociale. Merci à tous les deux. Carole Diamant, donc Fondation Égalité des Chances, Institut de France, pour participer au concours, puisqu'il va y avoir des votes d'internautes. Hein, et le
résultat,
c'est bientôt.
Il faut que tous les
il faut aller sur le site La France s'engage.
Oui, hein, il faut aller vite parce que ça se termine demain.
Voilà, lafrancesengage.fr et clôture des votes électroniques à minuit demain, samedi. Eric Mestralet, chef d'entreprise, président de la Fondation Espérance Banlieue.
Que vous
pour
pouvez aider.
L'aventure. Oui, bien sûr, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Le cours Alexandre Dumas à Montfermeil, cette aventure-là est racontée dans votre livre paru aux éditions du Rocher, Espérance Banlieue.
Avec
merci.
Harry Roselmack.
Tout à fait. Célèbre présentateur sur TF1. Merci à tous les deux. On parle d'un autre sujet maintenant, des lycéens pas comme les autres, qui préparent et qui passent le bac dans quelques jours en France. Ça sera juste après The World Is My Land.
The world is my land. Ich hab in Ost-Berlin gewohnt. In Weizensee-Weg 2, Nummer 0303 in Deutsch-Demokratie-Republik. DDR. Und ich will auch sagen, was ich ab da gesehen. Immer in Straße, die kleinen Kinder sagen in ihrer Mutter: Mama, Mama, guck mal die Neger. Ja, ich bin Neger, aber du bist Kartoffel. Kartoffel! Quand j'étais gamin, je vivais à Berlin Est, RDA. Le petit blanc qui me voyait passer disait à leur maman: Maman, maman, regarde les nègres. Nègres, ah, peut-être, mais moi, je passais le mur deux fois par jour. Ich bin ein Berliner, the world is my land.
C'est bientôt le bac en France. Certaines épreuves ont d'ailleurs déjà démarré selon les sections. L'occasion de parler de lycéens pas tout à fait comme les autres. Bonjour Francis Trille.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'ASF Vivre Sans Frontières, section Poitou-Charentes. ASF Vivre Sans Frontières, c'est une fédération en fait de 27 associations régionales ou départementales. C'est une association au départ qui était américaine, qui a plus de 100 ans, qui a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale pour favoriser la compréhension entre les peuples et qui existe toujours. Ce qui veut dire que on a cette année des lycéens qui ont découvert la France, qui sont accueillis dans une famille bénévole en France. Ils ont découvert le lycée français il y a quelques mois, ça doit être un peu la douche froide pour certains, et ils ont décidé de passer une année scolaire donc dans un lycée français, ils passent le bac là.
Bien sûr, ceux qui sont en âge de passer le bac vont présenter les épreuves du bac, et nous les encourageons à le faire. Et il faut savoir que même ceux qui arrivent en France sans maîtriser la langue, sans parler français du tout, eh bien, parviennent à obtenir le bac, et très souvent avec des mentions. Donc, dans de très très bonnes conditions. On a eu plusieurs mentions bien, très bien, etc. Donc, des résultats très très intéressants. Et, bon, je voudrais souligner les intérêts qu'il y a pour un élève étranger à mener une
scolarité. Ça. Ce sont souvent des bons élèves. En général, vous conseillez de choisir de passer une année comme ça dans une famille d'accueil à l'étranger, que ce soit des Français qui partent à l'étranger ou l'inverse, parce qu'ils sont déjà bons élèves dans leur établissement.
C'est plutôt ça, il faut bien reconnaître. Les intérêts sont multiples. Tout d'abord, il y a un intérêt d'appartenance, parce que le sentiment d'appartenance est fondamental pour un jeune étranger. Donc, appartenir à un groupe classe, par le partage d'objectifs communs. Donc là, il y a un enjeu d'intégration. Donc, un élève qui participe, qui veut passer les examens, va être plus facilement intégré. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, il se situerait en dehors de la dynamique de la classe. Donc on comprend bien que l'intégration ne serait pas favorisée. Il y a notamment, grâce à la présentation aux examens, un approfondissement de l'apprentissage de la langue, conduisant à une plus grande maîtrise. Et cette maîtrise de la langue est un élément, bien entendu, clé de l'apprentissage interculturel. L'acquisition du diplôme lui-même, le bac, bon, je peux vous donner un pourcentage, on est à 80-90% de résultats positifs pour les candidats. Eh bien, l'acquisition de ce diplôme peut s'avérer décisif, par exemple lors de l'examen d'un dossier de candidature, parce que c'est un plus dans un curriculum.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces jeunes viennent en France un an au niveau de la terminale ou au niveau qu'ils aient 15 ans, 16 ans, enfin d'autres classes de lycée, ils repartent chez eux en maîtrisant très bien la langue française, hein, et pour cause, ils ont été à l'école française toute la journée. Il y en a tout de même, ça doit être une sacrée découverte, hein, le système, l'école française, non, pour certains Européens qui sont dans des systèmes éducatifs radicalement différents, ou d'ailleurs, vous n'avez pas que des Européens, tous les continents sont représentés.
Non, en fait, ce sont les Asiatiques qui ont le plus de difficultés, parce que ce sont eux qui ont le plus de difficultés dans l'apprentissage de la langue. Et alors pour eux, si vous voulez, il va falloir attendre 6 mois, 7 mois avant qu'ils soient à peu près à l'aise pour communiquer en français. Alors que chez un Italien, chez un Allemand, chez un Espagnol, au bout de 3 mois, en général, ils s'expriment très bien, ils communiquent très bien. Voilà.
Alors, il y a des Français qui partent dans des familles d'accueil à l'étranger, sur tous les continents d'ailleurs, y compris le continent africain. Je crois que vous avez des partenariats avec l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Ghana. C'est pas donné, hein, bien sûr, pour les parents. C'est même assez coûteux, même si les familles sont bénévoles d'ailleurs.
Exact. C'est, l'ordre d'idée, c'est de 4 500 € à 10 000 € pour les pays les plus éloignés, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Les États-Unis, c'est en raison des assurances. Mais si vous voulez, pour une année, on a environ 350 Français, jeunes Français ou Françaises. Alors, il vous faudrait souligner Françaises parce qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Et on en a, par exemple, je vous cite une année, on en a eu 71 au Canada, 97 aux États-Unis, 8 au Costa Rica.
Oui, ça se croise dans tous les sens avec cette association. Et vous manquez d'ailleurs souvent de familles d'accueil bénévoles, y compris en France. D'ailleurs, il faut le signaler. Merci beaucoup Francis Trille, et puis bonne chance pour ces étudiants, ces lycéens étrangers qui passent le bac cette année en France alors qu'ils sont arrivés en septembre dernier. Vous êtes le président de l'ASF Vivre sans frontières, et on peut bien sûr avoir des renseignements sur le site ASF Vivre sans frontières. Merci à toute l'équipe également. Et lundi, 7 milliards de voisins, nous parlerons des célibataires et de l'amour, ou comment être prêt à la rencontre. Très bonne fin de semaine sur RFI.